Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Mathé, doctorante à l'Université de Poitiers au laboratoire Ruralité. J'espère que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts pour cet après-midi que nous allons passer ensemble. Je vais essayer d'animer au mieux le dernier axe de cette journée transition territoire et acteurs. Et pour rappel, l'axe 3 porte sur les acteurs de la société civile et la territorialisation de leurs engagements. Donc, pour illustrer ce dernier axe, nous aurons trois présentations. Alors, je m'excuse d'avance si j'écorche les noms de famille. Donc, vous me reprendrez pendant votre présentation si nécessaire, hein. Donc, nous commencerons par la présentation d'Adrien Mollaret, doctorant à l'Université de Grenoble au sein du laboratoire PACTE, dont le titre est « Recycler l'imaginaire de la transition dans les politiques publiques locales, l'exemple de la Biovallée dans la Drôme et du projet Agir en Ardèche ». Ensuite, nous continuons. Manon Moncoq, doctorante à l'Université de Tours à l'URM Citerès, qui nous présentera son travail sur les cimetières naturels, la mort comme nouveau mode d'action. Et enfin, nous finirons par la présentation de Léa Billan, doctorante à l'Université de Paris-Nanterre à l'URM La Vue, qui porte sur un quartier populaire en transition, petits gestes ou militance du quotidien. Donc, pour rappel, vous avez entre 15 et 20 minutes de présentation. Comme ce matin, au bout de 17 minutes, je me permettrai de vous faire un petit rappel avec ce bruit-là. Et puis, pour vous dire voilà, qu'il vous reste 2 ou 3 minutes. Et donc, à la fin de chaque présentation, nous aurons environ 10 minutes pour pouvoir laisser place aux questions. Donc, si c'est bon pour tout le monde, je vous propose de donner la parole à Adrien pour la première présentation.
Parfait. Je vous partage un écran. Bonjour à tous et merci beaucoup déjà pour l'organisation de ces journées malgré les contraintes qui sont les nôtres. Donc moi je vais vous présenter une communication qui s'intitule « Recycler l'imaginaire de la transition dans les politiques publiques locales ». Et finalement, contrairement à ce que j'avais annoncé au début, je resterai centré sur l'exemple de la Biovallée. Et je ne fais pas la comparaison que j'avais imaginée au tout départ. Donc, à partir de l'exemple. Donc, cette question, en fait, elle s'appuie sur un terrain, une enquête que j'avais réalisée en 2018, donc ça remonte un petit peu, sur la Biovallée, où j'avais fait une série, une dizaine d'entretiens avec les principaux acteurs de ce programme, que je vais présenter par la suite. J'avais pu assister à plusieurs réunions publiques, à temps de travail, et j'ai aussi un travail d'archives pour analyser toute la communication institutionnelle et les documents produits par les différents acteurs impliqués sur ce programme. Et donc là, j'ai saisi l'occasion de ces journées, de cet appel à communiquer pour me replonger dans ces données de terrain et essayer d'en faire une relecture avec des interrogations que j'avais développées plus tard, donc plus dans ma thèse actuellement, sur ces questions. Donc, cette enquête, j'avais faite pour un mémoire, et là maintenant, j'ai commencé une thèse de l'année dernière en sociologie politique, où je travaille sur un autre terrain, mais j'ai développé des questions qui sont très proches, où je m'interroge sur les interactions, les liens qu'il y a entre les acteurs publics et les mouvements sociaux, ou en tout cas les associations, les collectifs d'habitants, les collectifs militants dans les territoires ruraux, comment ils travaillent ensemble. Et donc, j'ai maintenant un autre regard que je porte maintenant un autre regard sur cette enquête que j'avais fait un peu auparavant. Et donc j'ai saisi cette occasion pour me replonger dans ces données-là et essayer d'en tirer une autre analyse. Donc là, la question quelqu'un qui a pris le partage d'écran.
Est-ce que quelqu'un a pris le partage d'écran?
J'essaie de reprendre le contrôle.
Pour celle ou celui qui essaye de prendre le partage d'écran, attention. Oui, c'est bon, c'est reparti.
Pas de problème. Donc voilà, donc là j'essaye de questionner la mise en récit de la transition à travers un exemple donc, localisé dans un territoire, comment différents acteurs s'emparent de ce terme de transition, mais y investissent un sens différent. Et mettent en récit leur action derrière cette idée de transition. Et donc, en arrière-plan, comment le thème même de la transition se diffuse de différents acteurs. Donc, D'abord, il faut présenter un peu le terrain d'étude et le territoire pour avoir un peu une idée d'ensemble avant de rentrer plus sur les questionnements. Donc la Biovallée, avant tout, c'est un territoire qui se situe dans le département de la Drôme, plus précisément le long de la rivière Drôme. Voilà, donc si on zoome un peu, en fait, c'est le regroupement de trois communautés de communes sur un territoire qui est relativement vaste, à peu près un tiers du département de la Drôme, mais qui est très peu peuplé. Donc au total, il y a moins de 60 000 habitants, avec un territoire qui est plutôt une dominante rurale assez marquée, une assez faible densité de population. Il n'y a pas de grande agglomération sur ce territoire, c'est surtout des petites communes avec peu de population, et une dominante plutôt agricole et rurale sur le territoire, avec quelques exceptions quand même. Ouais, donc ça, c'est pour quelques éléments de cadrage. Et en fait, ça c'est le territoire, et la Biovallée, c'est un programme institutionnel de collaboration entre ces trois communautés de communes qui vont créer un projet de territoire commun traversant ces trois communautés de communes autour de la rivière, de la rivière de la Drôme. Donc, c'est né au tout départ, avant que le nom Biovallée apparaisse, c'est né dans les années 90, justement sur un enjeu commun de gestion des eaux. Il y avait de gros problèmes de pollution dans la rivière Drôme. Donc il y a eu des premières temps de travail, hein, premières mises en commun et coopération d'acteurs pour réfléchir à la manière de mieux gérer cette ressource en eau. Et donc c'est un territoire qui a été assez précurseur sur ces questions de concertation locale sur la gestion de la ressource, notamment le premier schéma d'aménagement pour la gestion de l'eau en France en 97. Et donc ce travail de coopération locale a plutôt été un succès. Ils ont réussi à atteindre les objectifs qui s'étaient fixés en termes de dépollution et de valorisation de la rivière. Donc à la fin des années 90, il y a un petit groupe d'acteurs, notamment porté par quelques élus, qui se disent qu'il y a quelque chose à faire pour prolonger cet élan, cette dynamique locale, et ils déposent la marque Biovallée. Sans savoir exactement ce qu'ils vont en faire, mais ils se disent il faut qu'on capitalise sur cette expérience et qu'on aille plus loin, qu'on profite de ce terreau favorable à la coopération pour créer un projet de territoire ancré autour des objectifs de développement durable. Mais c'est vraiment au cours des années 2000 que va se structurer, et puis l'idée de Biovallée va commencer à prendre corps, notamment là où ça devient vraiment concret, c'est à partir de 2009, quand le territoire devient lauréat d'un appel à projet de la région Rhône-Alpes et se voit financé pendant 5 ans sur un programme d'action précise. Donc c'est à partir de ce moment-là que la Biovallée devient vraiment un programme d'action publique avec d'actions concrètes qui sont financées et avec la nécessité de se structurer, d'avoir une gouvernance, d'avoir des instances un peu pour décider de l'attribution de ces fonds et de faire du suivi de projet. Donc c'est ça le cœur de la Biovallée, et tout un tas de réalisations. À la fin de ce projet de 5 ans, la dynamique retombe un peu, puisqu'il n'y a plus cette manne financière qui a permis d'agréger des acteurs différents sur le territoire. Donc la dynamique retombe un peu, et une association est créée qui porte le nom Biovallée, qui existe toujours aujourd'hui, avec cet objectif de reprendre le flambeau et de continuer à porter cette dynamique localement, et que ça ne repose pas uniquement du coup sur les trois communautés de communes, mais que ce soit une association qui regroupe également les associations de riverains, les associations environnementales, des acteurs économiques aussi, enfin, donc regrouper un peu plus large pour continuer à porter cette dynamique avec leur grande idée de cette association, c'était que chaque acteur, à son niveau, décline un programme d'action et se mette en transition, chacun à son niveau, en essayant d'atteindre des objectifs. Et quelques années plus tard, la dynamique va être relancée de manière institutionnelle, notamment depuis l'année dernière, où de nouveau, les trois communautés de communes se sont regroupées et ont été lauréats d'un programme d'investissement d'avenir assez conséquent, donc qui relance la dynamique pour les prochaines années. Donc c'est devenu maintenant un projet de territoire assez structurant, qui est assez connu et reconnu, qui est souvent cité comme exemple par d'autres territoires, qui est de plus en plus étudié comme cas d'école d'un territoire en transition qui a réussi à avoir un programme assez ambitieux. Il y a 4 objectifs principaux qu'on retrouve dans les différents programmes au fil des années. C'est un enjeu autour de l'énergie, donc à la fois diminuer la consommation d'énergie et développer des énergies renouvelables, un enjeu autour de la mobilité, notamment pour ce territoire rural qui est quand même pas mal dépendant de la voiture, comment inventer des nouvelles formes de mobilité décarbonées, un enjeu important autour de l'agriculture, le développement de l'agriculture écologique, biologique, de l'agroécologie, des circuits courts, etc. Et puis un pôle un peu plus transversal sur comment favoriser l'innovation, la capitalisation, transmettre ces expériences à travers les formations de professionnels, de la recherche et développement. C'est un peu leurs quatre axes de travail qu'on retrouve sur leurs différents programmes. Voilà, maintenant, c'était juste pour donner quelques éléments un peu rapides de cadrage pour savoir de quoi on parlait derrière la Biovallée, pour avoir quelques éléments historiques de comment s'est construit aussi cette dynamique locale. Ce qui m'intéressait, c'est de voir, du coup, en interrogeant les acteurs localement, de voir qu'ils mettaient un effort assez important à mettre en récit leur action, à s'inscrire dans une narration de d'où ils venaient, de où est-ce qu'ils allaient, mais que cette mise en récit était différente, était contrastée selon les acteurs, et qu'en fait, il y avait une dualité, il y avait plusieurs significations, plusieurs imaginaires qui rentraient un peu en contradiction parfois. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas exactement d'accord sur ce qu'ils mettaient derrière l'idée ou la dynamique de transition. Donc c'est ça que je vais essayer d'un peu de présenter. Donc je vais le faire de manière un peu schématique, en présentant deux récits qui se distinguaient un peu l'analyse du terrain que j'ai pu faire. Un premier récit qui est plutôt l'action publique à travers le programme Biovallée, qui s'inscrit dans la continuité des initiatives qui préexistaient avant leur intervention, donc qui est l'aboutissement du travail local des alternatives qui s'est mis en place sur le territoire. Et un deuxième récit qui est plus critique et qui met plutôt au jour l'idée d'une forme de récupération par les institutions politiques, des dynamiques locales qui se retrouvent un peu dépossédées de ce thème qu'elles portaient au préalable. Pour rentrer juste un peu dans le détail de ce qu'il y avait un peu dans ces deux récits, le premier récit, il est vraiment porté par, au moment où j'ai fait l'enquête, ceux qui étaient sur le devant de la scène, donc soit les acteurs les plus investis, notamment au sein de l'association Biovallée, et les techniciens ou les élus de la communauté de communes portent le plus ce programme. Et donc pour eux, ils s'inscrivent vraiment dans la continuité du territoire, et du coup, ils repartent des pionniers qui, dans les années 70, sont arrivés sur le territoire avec une envie de création de nouvelles activités, de redynamisation de la vallée. Et ils ont mis en place pas mal d'alternatives, que ce soit sur l'agriculture, sur l'éducation, sur le logement, sur tout un tas de sujets. Et pour eux, l'action des institutionnels s'inscrit complètement dans la continuité comme la concrétisation, l'aboutissement de cette utopie de ce territoire. Donc là, j'ai mis deux verbatims qui exprime un peu cette dynamique-là. Le deuxième récit, lui, est porté plus par des militants, des acteurs associatifs qui sont un peu déçus de ce qui est devenu la Biovallée, qui ont eu un peu des ambitions un peu frustrées, que ça ne correspondait pas exactement à leurs attentes, ou de techniciens et d'élus de communautés de communes qui était partie prenante du projet, mais qui n'était pas le principal moteur de ce projet, et donc qui avait un regard un peu plus critique. Et dans ce récit, le premier récit, c'est vraiment aussi dans la communication institutionnelle, dans les plaquettes de communication, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Le deuxième récit, c'est plus quand on creuse, quand on interroge les acteurs, ce qui ressort aussi parfois, c'est que finalement, on nous dit que la Biovallée, c'est juste une stratégie de communication. C'est, par exemple, nous dit Olivier, qui est un directeur général des services, qui nous dit que c'est juste une ancienne communicante, c'est juste une mise en scène de ce qui se fait déjà sur le territoire, et donc c'est une manière pour certaines communautés de communes, certains élus, de bénéficier de l'image positive des dynamiques locales qui existent déjà. Et puis, il y a ce côté symbolique, mais il y a aussi cette idée que c'est juste un levier marketing pour attirer de nouvelles populations, attirer de nouvelles sources de financement, attirer de nouvelles entreprises, donc vraiment s'inscrire dans la compétition territoriale en se démarquant et en créant une identité territoire, la Biovallée, pour faire du développement économique. Donc là, on s'éloigne un peu de la dimension utopique des néo-ruraux et quelque chose qui serait... On perd cette dimension politique de critique un peu générale d'un système pour aller quelque chose de plus... d'un outil un peu plus instrumental au service du développement économique. Ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça a été une difficulté aussi pour moi de me confronter à des récits comme ça, un peu antagonistes, en me demandant mais alors, du coup, qui a raison, est-ce qu'il y en a un qui est plus vrai que l'autre, comment se positionner par rapport à ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ces deux projets, ils coexistent, ils se contredisent pas, et ils sont révélateurs de deux facettes du projet. C'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble, il y a un petit peu des deux en même temps. Et c'est révélateur du coup de cette notion de transition, de sa particularité, c'est d'être très malléable, d'être ouverte à des significations différentes, et du coup de permettre, sur un territoire comme celui que j'ai observé, de permettre à des acteurs différents, avec des motivations différentes, de travailler ensemble dans un temps donné, et ça peut être aussi parfois source de tensions entre eux, mais en tout cas, ils peuvent se regrouper derrière cette même bannière de transition, même si ils ont en tête des motivations et des récits assez différents. Et l'équilibre entre les deux se fait par quelques élus qui ont bien compris qu'il fallait jouer sur les deux tableaux, et du coup, qui essayent de donner le change sur ces deux types de motivations. Et donc ces deux récits qui coexistent, en fait, ils s'adressent aussi à des publics différents et ont des rôles différents. Donc le premier récit, ça va vraiment être une manière de fédérer les associations locales, le tissu militant local dans la démarche, tandis que le deuxième récit va être très important pour fédérer des acteurs économiques ou des élus qui ne partagent pas soit qui sont d'un bord politique opposé ou juste qui ne partagent pas cette ambition de changement profond de nos modes de production, de nos modes de consommation, mais qui vont voir dans cet affichage de l'écologie un moyen pro intéressant de développer leur territoire, un intérêt finalement économique derrière cet affichage. Et donc c'est vraiment en jouant sur ces deux tableaux-là qu'a pu naître le projet Biovallée. Donc, désormais, on peut essayer d'élargir un peu l'échelle et de demander qu'est-ce que ça nous apprend de manière plus générale sur cette notion de transition. C'est que là, finalement, la Biovallée, là, c'est juste un exemple localisé de la transmission de cet imaginaire de transition. Donc, effectivement, sur le territoire de la Biovallée, il y avait toute une dynamique locale qui portait cette idée de transition à travers des alternatives très concrètes et qui a été progressivement, d'une manière très visible, reprise, amplifiée par certains acteurs publics. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi au niveau national, et voire même au-delà du niveau national, cette diffusion de la notion de transition. Si on fait un bref retour historique, c'est intéressant de voir qu'au tout départ, la transition, c'est une notion technique et qui est proposé par certains experts dans le contexte du débat autour d'un possible pic pétrolier dans les années 70. Cette notion experte et savante est petit à petit réappropriée par des militants ou des organisations environnementales qui vont en faire un objet de lutte et un levier de mobilisation en élargissant un peu la focale. Ce n'est plus juste un enjeu de transition énergétique, mais derrière cette l'impératif du changement face aux enjeux climatiques, on va y investir d'autres thématiques, que ce soit la mobilité, la consommation, la production. Donc la transition devient un moyen transversal d'affirmer une position politique et de faire un levier d'engagement. Donc ça, c'est vraiment ça émerge au tournant des années 2000. Et puis très récemment, sur les quelques années dernières, c'est devenu un thème omniprésent dans les politiques publiques au niveau local et au niveau national. On voit que l'imaginaire est récupéré par ces acteurs politiques, à la fois dans les thèmes, donc ils vont porter, les thèmes portés par ces alternatives se retrouvent de plus en plus dans les programmes d'action publique, comme on voit concrètement sur l'exemple de la Biovallée, mais aussi dans les manières de faire. C'est-à-dire qu'on va prôner des modes d'action, des manières de travailler ensemble, qui étaient aussi inspirés par ces mouvements, le fait de ou le fait de faire des politiques participatives. Donc c'est autant des politiques de transition que des politiques en transition. Au cœur de cette question, donc, il y a quand même une tension fondamentale entre ce jeu, entre ce recyclage et la question de la critique. Et on a l'impression qu'il y a un éternel dilemme quand on étudie un peu ces questions de transition sous un aspect politique, entre on va dire un ensauvagement des institutions et une domestication des alternatives. C'est-à-dire qu'on ça revient à se poser la question de est-ce que la diffusion de la transition dans les sphères d'action publique, c'est le signe d'un succès, d'une réussite des mouvements sociaux et écologistes qui ont réussi à imposer leur cadrage, leur thématique, leur réflexion aux acteurs politiques institutionnels, ou alors c'est juste ces acteurs ont juste récupéré et contourné la critique en l'institutionnalisant et ont récupéré ce message et l'ont détourné de son objectif principal. Donc ça, c'est une tension qui est un peu irrésoluble. Dans ce cadrage, on a l'impression qu'il y a une opposition un peu simple entre une transition citoyenne par le bas pour que tout change et puis une récupération politique par le haut pour éviter le changement. Et donc là, juste pour terminer sur qu'est-ce que je veux faire de ça dans la suite de ma thèse, pour ouvrir, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir un peu, essayer de sortir de cette opposition dichotomie qui est finalement un peu simpliste entre une société civile qui prônerait un changement et qui serait positive et puis un État ou des acteurs publics qui seraient un peu manipulateurs qui reprendraient cette critique pour montrer que la transition vraiment elle se comprend, c'est une imbrication entre une forme d'action collective et une forme d'action publique, mais que les deux ne sont pas en opposition et les deux sont entrecroisés et localement on l'observe très bien, ils se façonnent mutuellement. C'est-à-dire que les formes de mobilisation impactent les formes d'action publique et l'inverse est vrai aussi. Et surtout, ça c'est l'hypothèse que je pose pour la suite de mon travail qu'il faut que je teste, c'est finalement que les deux répondent à des impératifs et suivent des logiques relativement proches. Et notamment, elles ont une même base sociale, c'est-à-dire que les gens qui sont impliqués dans ces mouvements qui se revendiquent de la transition et le personnel qui est impliqué dans la mise en place de ces politiques de transition sont issus de ce que j'appelle pour le moment, pour aller un peu vite, les classes moyennes intellectuelles. Et donc c'est ça l'objet de suite de mon travail, c'est de questionner, d'aller enquêter à la fois sur les professionnels de la transition dans les territoires et des militants pour la transition, et de voir comment la transition peut être comprise comme un continuum d'engagement, plus ou moins contestataire, ou plus ou moins institutionnalisé, mais en tout cas qui est situé socialement, et donc de questionner aussi ce terme à travers une sociologie des acteurs qui le portent et de montrer que la frontière est poreuse entre action publique et action militante. Merci beaucoup.
Eh bien, on peut dire timing parfait, 20 minutes. Donc, ben, merci pour cette présentation qui analyse du coup la Biovallée. Donc, un projet multi-acteur qui demande de la coordination et de la concertation et qui, bien sûr, questionne le terme de transition. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en haut à droite, le lever la main, pour que je puisse distribuer la parole. Donc, nous avons déjà trois. Nous allons commencer par Isabelle Lajeunesse.
Oui, merci beaucoup. Merci à Adrien Mollaret pour sa présentation sur la Biovallée. Alors, j'ai vu que vous aviez quand même dans votre intention pour questionner le constat que vous observez sur la manière dont est opérée la transition localement dans ce projet Biovallée et puis peut-être de voir ce que ça peut devenir dans le futur aussi. Vous faites un bref historique de ce qui s'est passé et de comment ça s'est construit. Et je ne peux pas m'empêcher de noter que tout a démarré autour d'une problématique de pollution de l'eau, avec la sollicitation d'un outil qui est un des rares par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, qui soit vraiment bottom-up, c'est-à-dire ascendant, c'est-à-dire le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Même si le cadre, c'est le SDAGE, c'est la directive cadre sur l'eau, le SAGE, il est vraiment bottom-up. Or, on sait bien que s'il n'y avait pas ça, politique de l'eau, politique agricole, c'est quand même la dichotomie totale par rapport à ce qui est proposé à l'Europe, mais même à l'échelle des territoires. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous demander quelle est la part de gloire qu'on peut donner à cet outil qui permet vraiment d'intégrer tous les usages, tous les usagers et les décideurs. Donc, vraiment l'aboutissement de la gestion intégrée de l'eau. Comment ça a permis de mettre tout le monde autour de la table, en plus avec un système intégrateur qui a vite montré l'impact du changement climatique, des problématiques multi-usages, multifonctionnalités sur la Drôme, outre le terreau d'acteurs, mais quelle part on pourrait donner au succès de cet outil-là?
Je réponds directement ou on prend plusieurs questions, je réponds.
Oui, vas-y, réponds.
Effectivement, c'est vrai que c'est, en tout cas moi, dans les entretiens que j'ai faits, ça revient très souvent comme le moment fondateur de la Biovallée, de cette concertation autour de la gestion de l'eau. Après, donc moi, j'étais pas là pour l'observer au moment où ça s'est passé, pour avoir une analyse de ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, mais dans l'analyse que je peux en faire, quand je demande aux acteurs qui me racontent, effectivement, ça a été fondateur parce que c'était un moment où ça a mis tout le monde autour de la table, autour d'un objectif concret, précis, et ça a permis de se faire rencontrer des collectifs ou des ensembles d'acteurs qui avant travaillaient de manière plus cloisonnée, qui ne se rencontraient pas. Ils se sont mis autour de la table, ça a créé des habitudes de coopération au niveau de toute la vallée, et ça a créé une sorte de cohérence aussi pour un territoire qui n'avait par contre ça a créé un territoire. Ça a fait territoire autour de la problématique de l'eau le long de la rivière, alors qu'avant c'était peut-être plus des questions autour de quelques communes. Là, ça a créé un territoire. Et donc, c'est à la fin, suite au relatif succès de cette démarche-là, qu'ils se sont dit, il faut continuer, il faut valoriser cette expérience de concertation, et il faut faire quelque chose au niveau de ce territoire. Et ça a vraiment créé, c'est ce qui m'a été rapporté, un terreau favorable à la coopération entre différents acteurs.
Et ça, je pense que c'est important à dire par rapport à la composition de la CLE, la Commission locale de l'eau, qui est une répartition importante, notamment avec 50% d'élus, 25% d'usagers, 25% de représentants de l'État. Ça marche finalement assez bien. Il y a des trucs qui marchent bien, c'est bien de le rappeler. Merci en tout cas.
Merci à vous. On va continuer avec Corentin.
Oui, merci. Pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, Adrien, il y a Céline Girard qui était assez impliquée sur la Biovallée, qui a beaucoup écrit sur la place justement de ces programmes autour de l'eau et sur ce que ça a donné après dans le contexte de la Biovallée. Donc c'était aussi pour dire à Isabelle que je peux faire passer ces articles de Céline Girard. Bon, j'aurais énormément de choses à dire parce que il s'avère que j'ai fait mon mémoire de recherche sur la Biovallée et la transition agroécologique, donc on aurait des choses à se raconter. Moi, j'ai plutôt travaillé sur les agriculteurs qui, quand même, il me semble, former le terreau de la Biovallée. C'est-à-dire qu'on a énormément communiqué sur l'agriculture biologique, etc. Et donc, les agriculteurs, il y avait une place très forte qui a petit à petit diminué, et notamment autour des années 2012. Donc, je voulais savoir si tu avais pu rencontrer des agriculteurs sur cette question-là, sur la question de la transition. Mon expérience, ça a été que, donc c'était 2017, à parler de la transition aux agriculteurs qui, de fait, étaient dans des transitions agricoles. Ils ne voulaient pas entendre parler de ce mot en particulier, parce que ça avait une connotation politique qui était extrêmement forte pour eux, et ils ne voulaient pas forcément en entendre parler. Je ne les ai pas tous vus, mais je sentais que dans le dialogue, la question de la transition n'était pas évidente. Il y a ça. Et puis, deuxième question, petite question, est-ce que tu as été impliqué dans le PSDR Sagacité, est-ce que tu avais un lien avec ce programme de recherche qui travaillait justement sur la transition? Et troisième question, juste rapidement, tu as conclu ton propos sur la question des classes moyennes supérieures qui en fait s'impliquent sur ces questions de transition, à la fois dans l'aspect militant et parfois aussi dans l'aspect politique public, entre guillemets. Il y a eu un exemple assez parlant dans la Biovallée, c'est la commune de Saillant qui a quand même essayé d'amener un modèle de transition dans la politique en amenant des formes de démocratie participative par une certaine partie des personnes qui participaient à cela. C'était de fait des gens issus de la classe moyenne supérieure. Et l'échec final de cette liste, qui, là, aux dernières élections, a été complètement débouté par les habitants de Saillant, qui en fait sont revenus à un mode de démocratie plutôt classique, avec un maire et des élus. Et donc on voit bien là cette question là dont tu parles des classes moyennes, et je voulais savoir si toi tu dépassais aussi cette classe-là. Est-ce que tu allais voir aussi d'autres classes sociales où en fait on se rend compte que des classes populaires, entre guillemets, hein, qui sont aussi présentes dans les questions de transition, sur des aspects parfois de militantisme, et notamment dans la Biovallée, il me semble. Donc je voulais savoir si voilà, tu arrivais à dépasser un peu l'étude de la classe moyenne pour aller voir d'autres classes sociales. Merci.
Merci beaucoup pour les questions et les remarques. Alors, pour les prendre dans l'ordre, déjà c'est vrai que sur la Biovallée, c'est un objet d'étude qui est très étudié, donc il y a beaucoup de thèses, de travaux qui ont été faits. Mais généralement, en tout cas moi l'impression que j'ai, c'est que c'est plus des il y a beaucoup de travaux qui sont spécifiques sur certaines questions, donc effectivement sur la question de l'eau, sur la question de l'agriculture, sur la question de l'énergie. Moi, je suis pas du tout spécialiste d'aucun de ces thèmes-là, et j'ai une approche, je sais pas exactement comment la qualifier, mais moi, je viens plus de la sociologie politique. Moi, je m'intéresse à ces dynamiques-là sous l'angle politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de forme de mobilisation, de forme d'action publique, et en montrant que les logiques, elles sont pas propres à juste une thématique, mais ce qu'on retrouve sur la question... il y a des spécificités à chaque thématique, mais on les retrouve aussi sur un grand nombre de thématiques. Donc je n'ai pas creusé en particulier la question de l'agriculture. Effectivement, moi, c'est de ce que j'ai compris, c'est que c'était ressorti au début. Il y a eu l'eau dans les années 90, on va dire. Puis après, dans les années 2000, c'est vrai qu'il y a eu la question de l'agriculture et de l'alimentation, des circuits courts, et notamment que c'était avant. L'action publique s'en saisit, c'était déjà un territoire qui était très en avance en termes de surface agricole en bio. Donc ça a fait un levier de communication assez facile dès le début pour dire qu'il y avait déjà des choses qui étaient faites. Et après, c'est vrai que ça a été un peu, c'était moins au centre de la communication sur la suite, mais j'ai pas plus, je ne suis pas allé rencontrer des agriculteurs, je ne me suis pas lancé dans sur une enquête sur les différentes compréhensions qu'on peut avoir les agriculteurs de ça, mais je pense que c'est une question très intéressante. Et donc, je n'ai pas participé au projet de recherche Sagacité, je n'ai pas été lié avec eux. Et sur la question des classes sociales, conclusion, comme j'avais plus le temps. Moi, c'est vrai que ça, c'est vraiment la question que j'essaye de réfléchir en ce moment sur le lien, comment on peut faire dans l'analyse, enfin, le lien entre ces dynamiques de transition et une approche par les classes sociales. Moi, la manière dont je travaille, je choisis pas d'aller voir des gens d'une telle classe sociale, donc je n'ai pas choisi d'aller voir uniquement des gens issus des classes moyennes de supérieures ou des gens issus des classes populaires, mais j'ai l'entrée par les professionnels, donc ceux qui sont travaillent que j'appelle les agents intermédiaires de la transition, qui travaillent dans les mairies, dans les communautés de communes, et pour mettre en place ces programmes, ou alors dans les militants très investis, donc, qui sont quasiment soit professionnels de la militants, ou alors qui sont très investis, qu'on retrouve dans les différents temps de concertation, qui travaillent en partenariat avec les institutions publiques. Et donc, ça fait une entrée très précise, très restreinte. Ça restreint certaines personnes, en tout cas. Et c'est parmi ces gens-là que je constate une surreprésentation des gens issus de ces groupes sociaux. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire ce lien-là. Mais effectivement, après, sur la Biovallée, comme dans beaucoup d'autres territoires, il y a des liens, des questionnements à faire entre classe populaire et écologie qui sont intéressants, mais là, qui ne sont pas trop dans ma perspective de mon étude pour le moment. Et je ne sais pas, j'ai peut-être oublié une question en route.
Je pense que tu as répondu à tout. Donc, nous avons encore deux autres personnes qui veulent répondre, qui veulent poser des questions. Donc, je vous demanderai d'aller, pour garder le timing, d'aller au plus vite. Donc, je vais laisser la parole à Mohamed Tamni et ensuite à Sabine, s'il vous plaît.
Merci. Merci pour cette présentation. Donc, par rapport aux indicateurs, en quelque sorte, de réussite de cette, ou en tout cas de réalisation des objectifs par rapport à la transition, comment Biovallée les affiche, c'est-à-dire est-ce qu'elle met en avant qu'elle est même au-delà de ce qui est attendu, et autre point par rapport à votre présentation, on n'a pas l'impression du tout qu'il y a de conflit entre les différents acteurs par rapport à des choix. Alors comment sont résolus en quelque sorte ou dépassés les conflits, par exemple, entre ceux qui ne s'engagent pas dans l'agriculture biologique ou pour l'autonomie énergétique, les choix qui sont faits, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition par rapport, est-ce qu'on a misé sur le photovoltaïque, sur le solaire, sur l'hydro, l'hydroélectricité, les micro-centrales, etc. Donc voilà, comment, au-delà de la construction du récit, comment apparaissent justement, où sont résolus soit les conflits réels, soit les conflits potentiels. Et en termes d'indicateurs, comment ils les réalisent, parce que j'ai vu sur leur site qu'il y a une plateforme d'auto-évaluation, mais par rapport donc, je dirais, au bilan qu'ils présentent pour cet éco-territoire, au-delà de mettre en avant des réussites pour l'attractivité, en quelque sorte, parce que bon, c'est quand même un des éléments phares de ce territoire qui se se dit beaucoup plus composé de communes rurales, donc une ruralité très attractive apparemment. C'est beaucoup d'acteurs locaux, entrepreneurs, etc. Et donc il y a cet engagement semble lié à une appropriation presque totale des objectifs par tout le monde, alors que généralement ça se fait un petit peu par le choix, je dirais, démocratique. Ça veut dire que la majorité s'engage sur des objectifs et puis on dépasse les rivalités par ce biais-là. Quels sont les éventuels conflits ou les conflits qui ont existé? Merci.
Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, pour essayer de répondre rapidement, sur la question des indicateurs et des objectifs de réussite, il y a vraiment, j'ai l'impression, il y a deux mécanismes en fait, de fonctionnement de la Biovallée. Il y a un programme d'action publique qui est financé régulièrement par des appels à projets, donc là, qui se fixe des objectifs assez ambitieux en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de surface cultivée en biologique, etc. Donc, des grands objectifs. Et après, il y a un travail au sein de l'association pour que chaque acteur à son niveau se fixe des objectifs et s'auto-évalue dans sa réalisation. Et donc, là, il y a des groupes thématiques pour ceux qui travaillent sur le tourisme, ceux qui travaillent sur les mobilités, et là, se fixent à leur niveau leurs propres objectifs. La question du conflit, moi, elle m'intéresse vraiment, parce que si dans mon propos, il était ressorti qu'il n'y avait pas de conflit, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Au contraire, en montrant qu'il y avait deux récits, ça montrait bien qu'il y avait des compréhensions différentes et du coup autant de possibilités de conflits. Et donc moi je ne suis pas rentré dans les conflits sur des questions techniques sur chacune des thématiques. Est-ce qu'il y a eu des débats là? Sûrement qu'il y en a eu, mais ce n'était pas tellement mon propos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que à certaines périodes, les conflits ressortaient, à d'autres moments, ils étaient moins visibles, et c'était tout à fait lié à l'accès à des financements ou pas. Donc il y a eu un certain consensus, notamment quand il y a eu le grand projet Rhône-Alpes, parce qu'il y a eu une manne financière qui est arrivée, ça a fédéré des acteurs, chacun a pu proposer son programme d'action et être financé, et donc ça a relativement bien fonctionné, même s'il y a toujours des tensions, des discussions entre des élus de bords politiques. Et à la fin de ce programme, là, les contradictions et les tensions sont ressorties, et donc là, il y a des acteurs qui se sont retirés, des comités de communes qui ont arrêté de participer à ce projet-là. Donc là, les différentes visions du projet du territoire sont vraiment ressorties. Et donc là, il y a bien eu des débats et des accords.
D'accord, merci beaucoup. Donc, dernière question avec Sabine. Question concise, s'il vous plaît. C'est à vous.
Ouais, ça tombe bien, parce que c'est pas tant une question que des compléments d'information. Je suis Sabine Girard, en fait, et du coup, pas mal bossé. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les questions... d'eau et de bio, enfin de sage, de territorialisation de la politique de l'eau sur la vallée de la Drôme. Donc j'ai abordé de plein complètement ces questions d'eau et de construction de Biovallée. Et je l'ai fait ma thèse, je l'ai soutenue en 2012. Et si je dis ça, c'est parce que juste une remarque que je voulais faire sur la présentation initiale du cap Biovallée, qui en fait était un parfait exemple de la puissance du récit qui a été construit sur la Biovallée, avec la mise en évidence d'abord des questions de l'eau, puis d'agriculture, puis de Biovallée. Et ça, en fait, c'est le récit dominant, c'est le récit des acteurs dominants dans la Biovallée, auquel je confère avoir contribué. C'est-à-dire qu'en faisant ma thèse, mettant en évidence les liens entre gestion de l'eau et territoire, à un moment où la Biovallée, où la communauté de communes du Val de Drôme, principal acteur, était en train de monter sa stratégie de concurrence pour être innovant au niveau français en termes de développement durable, en fait, c'est complètement saisi. Enfin, en tout cas, voilà, donc j'ai révélé quelque chose par ce travail de thèse qui a contribué à faire monter ce récit. Évidemment, je ne sais pas du tout pour me... Mais voilà. C'est juste pour rappeler que les récits que l'on raconte et qu'on revéhicule et qu'on relit ensuite, en fait, sont le fait de répétitions constantes et qu'on finit par mythifier quelque chose. Donc, c'est exactement, à mon avis, ce qui se passe quand on présente le récit comme ça. Il n'en reste pas moins qu'il est vrai dans les faits qui peut se passer autour de la rivière avec effectivement cette démarche de sage permet effectivement de rassembler les acteurs. Et voilà, c'est juste pour souligner que quand on parle des récits, ça, que quand on présente, on ne présente jamais de façon neutre un territoire, en fait, surtout pas voilà, en prenant selon les documents sur lesquels on s'appuie. Et c'était aussi pour dire que dans ce récit, en fait, et dans les deux, Adrien, dans les deux stratégies que tu as présentées, je ne sais pas si c'est fortuit ou si c'est réel ou si tu n'as pas le temps d'expliciter, mais il se trouve que tu as opposé des gens de l'amont et des gens de l'aval. Or, comme tu l'as dit toi-même, les luttes sont fortes entre amont et aval, des luttes politiques, il y a des, c'est des luttes politiques d'hommes politiques, qui peuvent être d'ailleurs du même bord ou pas, politiques, mais qui sont en fait très forts avec une partie amont du territoire qui a toujours peur en fait d'être mangée par la partie aval qui prend beaucoup de place. Et c'est notamment ces luttes-là qui ont eu lieu beaucoup sur Biot-Vallée et qui expliquent une position particulière de Diwa, qui aussi essayer de se protéger en dénigrant, en critiquant le projet, parce qu'ils ont toujours peur du point de vue de ce petit de se faire manger. Quoi. Et donc, ils ne souhaitent collaborer avec la partie aval que dans certains cadres, dans certaines conditions, et en général dès que la manne financière arrive. Et voilà, donc, juste une petite précision, sinon je trouve le travail, poser ces questions-là comme ça, très intéressante, et je pense qu'elle mérite d'être creusée encore plus maintenant, avec l'apparition d'un troisième acteur, qui pour moi, du coup, est très en lien avec le TAP pour la vie de recherche, qui est l'association, qui elle-même rentre dans une lutte stratégique et politique face aux intercommunalités, pour trouver une place en termes d'acteurs clés ou pas de la transition dans ce territoire, et portant sur moi. Et enfin, juste une dernière remarque, toujours en lien avec ton rapport, avec ton travail, que je trouve aussi très intéressant sur cette question de faire le lien entre ces acteurs investis dans la transition, qui soient du côté société civile et qui soient du côté action publique, et qui pourraient être une classe assez homogène. Moi, je me pose la question qui se pose dans le cas de Biot-Vallée ou aussi dans la commune de Saillant, c'est qu'est-ce qui se passe quand en fait les dispositifs mis en place de transition sont massifs, c'est-à-dire qu'ils concernent un très grand nombre de personnes potentiellement, donc dépassent forcément d'une certaine manière une certaine classe. Et voilà, ce que ton travail m'évoque. Et bonne continuation, je suivrai les travaux, ça m'a l'air très intéressant.
Merci beaucoup. Merci encore à Adrien pour cette présentation et merci pour vos questions et remarques qui ont été très intéressantes. Donc,